Salut Pierre-Yves.
Allô?
Il y a une enquête du groupe ProPublica. C'est un groupe de journalistes d'enquête là, qui a mis la main sur les déclarations d'impôts de plusieurs milliardaires. Ça fait beaucoup d'écho aux États-Unis. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de milliardaires qui paient un taux d'imposition qui est assez microscopique. Et toi, tu dis qu'il faut faire attention aux conclusions.
Bien, quand on est journaliste au Québec, qui comprend un article d'Agence France-Presse, qu'on le copie-colle puis qu'après ça, on ne réfléchit pas aux conséquences, c'est un exemple.
Okay. Warren Buffett. Si moi j'ai lu l'article de ProPublica, c'est-tu correct?
Oui, mais qu'est-ce que tu as lu dans l'article de ProPublica? C'est qu'il dit qu'ils ont divisé le total des impôts personnels payés par les actifs totaux possédés par la personne. Alors, c'est un faux calcul. Je te donne un exemple, Patrick. Si tu me dis, Pierre, cette année, tu as payé 100 000 d'impôts, mais c'est pas beaucoup si tu as 10 millions d'actifs. Je te dis à ta minute, là. Mais 10 millions d'actifs, c'est pas là-dessus qu'on est imposé. C'est sur les gains sur les actifs imposables, sur les revenus imposables, sur les revenus de dividendes, sur les salaires. Et donc, tu divises l'impôt personnel de la personne par la totalité de ses actifs, mais ça n'a aucun sens. C'est sûr que ça donne des aberrations parce que tes actifs, comme ta maison, t'es a payés avec de l'argent net, tu ne vas pas te réimposer dessus à chaque année, ça n'a aucun sens. Et surtout pas sur la valeur, tu t'imposes sur le gain de valeur. Donc, tu sais, là, c'est dit, oui, mais c'est un organisme indépendant réfléchi, mais ils l'ont quand même fait, le tableau. Puis ils savent très bien que ça n'a pas d'allure. Et donc, puis dire qu'une année, un milliardaire n'a pas payé d'impôts personnels, ben c'est facile, je vais te montrer comment. Tu investis dans des compagnies pendant des années. Tu fais pas une scène, tu perds de l'argent. Tu gardes ces pertes en capital, là, Patrick, là, parce que tu as le droit de les reporter 3 ans en arrière, l'infini par en avant au Québec. C'est différent aux États-Unis, mais il y a une règle équivalente, disons, qui n'est pas les mêmes nombres d'années, des fois. Mais, dans le fond, si tu as perdu 100 000 il y a 5 ans, puis cette année, tu fais 100 000 de gains. Gains, ça veut dire que tu revends ton placement plus cher que de payer. Ça s'annule. Et donc, tu ne paies pas d'impôts. Puis non, Warren Buffett, tu n'as pas besoin de se verser un salaire à payer sa maison et payer. Jeff Bezos, non plus. Leur train de vie est assumé par tout ce qu'ils ont déjà. Je vais te donner un exemple au Québec. Puis Patrick, j'ai 50 000 dans mon CELI, disons. Pendant un an, je me verse aucun salaire, je vis sur mon CELI. Sais-tu combien je vaux au niveau fiscal? Je n'ai aucun impôt à payer. Pourtant, j'ai des actifs. Mais c'est parce que je prends de l'argent non imposable, puis je le prends, j'ai le droit. Puis là, tu vas venir faire un article, puis Pierre-Yves Mexoun a payé zéro d'impôt cette année, puis il y a quand même tant de milliers de dollars d'actifs, c'est un scandale. Ça, c'est très, je ne comprends pas la fiscalité. Moi, ce qui me choque, c'est de voir les partages. Tu vois, mettons un article d'un quotidien, le journal, c'est « Les milliardaires ne payent pas leurs impôts ». Attention, là, remettez les pendules à l'heure, parce que si tu as des placements dans des entreprises, les entreprises paient de l'impôt corporatif. Après ça, si toi, tu fais un gain, tu payes de l'impôt si c'est pas dans un REER, par exemple, ou un CELI pour l'instant. Après ça, tu vas payer de l'impôt sur le dividende, de l'impôt sur le gain en capital hors REER. Après ça, toi, personnellement, si tu te verses un salaire, tu vas avoir de l'impôt à payer. Mais tu sais, il faut comprendre un minimum de fiscalité avant de s'exclamer que c'est un scandale. Et surtout, comme médias, t'as la responsabilité de ne... C'est pas parce que l'Agence France-Presse a fait un article ordinaire de rapporter des faits de façon populiste qu'il faut que tu fasses pareil puis tu mets un beau titre là-dessus parce qu'il y a un titreur qui est payé juste pour faire le titre. Parce qu'à la fin de l'article, ils disent « Le calcul montré est un peu bizarre. » Mais on l'a dit quand même parce que ça fait vendre des copies.
Mais moi, écoute, ça fait peut-être vendre des copies. Mais pour suivre ce qui se passe là-bas, là, il y a quand même un débat qui est intéressant sur la façon dont les riches sont imposés et surtout la façon dont les riches se font pas trop talonner par l'impôt aux États-Unis.
Mais là, Patrick, encore une fois, explique-moi ça. Parce que si tu as fait du gain en capital, tu es imposé. Si tu n'en as pas fait, tu n'es pas imposé. Si tu peux annuler un gain en capital avec une perte en capital, tu as fait une perte et un gain, ça s'annule. Si tu es milliardaire... Puis que, par exemple, Jeff Bezos, c'est un bon exemple, je donne un bon exemple. Jeff Bezos vaut 100 milliards. Ces 100 milliards, c'est des actions de compagnie. Ben, il va pas s'imposer sa valeur des actions. Il va s'imposer quand il va les revendre.
Quand je te parle du débat plus large, là, OK? Ouais. Aux États-Unis, le Revenu Canada, l'IRS, là, les dirigeants l'ont dit eux-mêmes. Écoutez, ben oui, quand on regarde la cartographie d'où on fait des enquêtes fiscales, ben oui, c'est plus souvent chez les pauvres, c'est plus facile. Dans les quartiers riches, ils vont pas mal moins. Ça, c'est-tu juste? Je comprends ce que tu me dis sur le détail de cette enquête-là. Tu ne viendras pas me dire qu'aux États-Unis, les riches payent leur juste part d'impôts.
Ce que je vais te dire, Patrick, c'est qu'il y a des règles fiscales au Canada et aux États-Unis, puis si une personne ne triche pas, elle les paie. Ça, c'est, je vais te dire ça. Comme, je vais donner un exemple au Québec. Je vais donner un exemple bien facile au Québec, OK? t'hérites de tes parents d'une maison dans Westmount. T'as une compagnie incorporée. Tu te fais juste 50 000 par année parce que tout est déjà payé. Tu payes 10 000 par année d'impôts, mais t'es multimillionnaire, voire multimillionnaire. C'est que notre système fiscal, si vous n'êtes pas d'accord avec la façon de taxer les gens, on peut en parler. Il faut en parler. Puis il y a des iniquités incroyables dans le monde dans lequel on vit. Puis ça ne fait que s'envenimer parce que c'est plus facile de vivre sur des revenus de placement que sur des revenus de travail. Ça, tout le monde comprend ça. Ce que je dis, c'est qu'il faut quand même apporter un bémol pour pas juste dire être scandalisé puis pas dire attention là, l'article est biaisé, le travail est biaisé. Oui, après ça on peut talonner. Oui, on peut critiquer. Puis même au Canada, tu sais moi, comment ça fait que moi je suis capable de voir en regardant au bord de la rue comment il y a des entrepreneurs qui fraudent puis que moi je me suis fait tu sais chaque scène est bien reportée puis je déclare puis je me suis fait enquêter par le fisc plusieurs fois. Ben c'est parce que je suis malchanceux dans les algorithmes de recherche, puis on m'a demandé un petit 2000 que je vais pas, il faut que je me batte puis comme citoyen puis c'est tough. Je comprends, puis c'est pas parfait. Mais taxer les actifs, c'est ça qu'on veut qu'on fasse, ben il faudrait le dire.
OK, parce que... mais si tu as tellement d'actifs que... Regarde, je te pose la question là, vraiment là, sincèrement, OK? Tu as tellement d'actifs que tu peux juste vivre sur des revenus dérivés passifs, OK? Puis, parfait, là, t'en fais assez pour vivre, pas assez pour être riche avec tes revenus annuels, mais tu l'es sur papier. Puis là, tu payes moins d'impôts que quelqu'un qui travaille.
Bien, c'est facile.
Il y a tellement... Non, mais je te pose la question. C'est-tu juste?
C'est pas juste, mais ça arrive. Je vais donner un autre exemple bien facile. Au Québec, tu es médecin spécialiste, tu garoches tout ton salaire dans un INC, tu te verses rien. Fait que là, ton INC paye de l'impôt corporatif, mettons à 20,6% ou peu importe, là, ça dépend comment tu as structuré ton affaire. Puis toi, t'as pas besoin de salaire parce que ton chum, il est prof, puis votre maison est payée. Fait que vous vivez sur son salaire seulement. Puis l'argent se cumule dans la compagnie. Mais là, le revenu passif, s'il devient trop gros, il va être imposé au gros taux. Fait qu'il faut faire attention. Mais c'est pas juste les milliardaires, là. L'entrepreneur en construction, Patrick, là, tu sais, qui a une compagnie Inc., puis qui achète une. Tu sais, qui construit, mais là, on tombe dans la fraude fiscale, mais tu sais, je veux dire, du tout croche, il y en a du légal, du pas légal. Je veux pas dire que c'est juste les iniquités fiscales, les iniquités de population. Ce que je te dis, c'est quand je lis l'article, puis les rapports de l'article, ce qui est dit, c'est un peu populiste au niveau fiscal, puis ça ne permet pas de justement reporter la vraie affaire. S'ils n'ont pas payé assez d'impôts, qu'ils payent. S'ils sont tricheurs, qu'on les condamne. Mais leur dire une année qu'ils ont reporté des pertes en capital sur des gains en capital, de dire que c'est pas correct.
Je vais te soumettre juste une affaire, Pierre-Yves. Là, je comprends, là, au pied de la lettre. Mais je pense que tu sous-estimes à quel point Warren Buffett a des meilleurs lobbyistes pour écrire des lois que la moyenne des ours.
Je peux pas prouver ça. Ce que je peux dire, c'est que Warren Buffett vit encore dans sa maison bien simplement. Je pense que son trait de vie fait en sorte qu'il a besoin de rien. Tu irais dans sa maison, tu dirais, ça, c'est un des hommes les plus riches du monde. C'est incroyable. Puis ces gars-là aussi, ils ont fait, à leur défense, ils ont signé The Given Pledge, qui est ils s'engagent à donner aux œuvres de bienfaisance plus de 50% de leur fortune à leur décès. Ce qui est quand même bien, mais moi, Patrick, là, je suis pas en train de défendre, de dire que c'est juste puis que le marché nord-américain est juste, mais Elon Musk, sa valeur est basée sur la valeur de Tesla. Fait que tant qu'il vend pas ses actions, puis qu'il n'y a pas de revenu de dividende, il n'y a pas de revenu de sa fortune, tu comprends? Tu sais, il faut faire attention.
OK, on va y faire un téléthon. parle-moi de négociation de salaire.
Ben, je vais te parler de négociation de salaire parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, mais Pierre-Yves, on applique des trucs dont tu parles souvent de négociation, mais ça marche pas. » Je dis « Vous êtes-vous mis dans la chaise du patron? » Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, le patron, premièrement, dans la grande entreprise, il a une enveloppe RH, hein, de RH ou gestion de talent. Et il reçoit une enveloppe et il dit « C'est ça, les augmentations cette année. That's it, that's all. » Donc, lui, il s'en va par en bas puis il répartit. Donc, là, il y a une courbe normale dans son entreprise qui dit « Il y en a une partie qui va être non satisfaisante, les employés, une partie satisfaisante, puis une faible partie très satisfaisante, puis je vais répartir. » Donc, si tu veux de l'argent d'augmentation de façon individuelle, faut que tu démontres à ton employeur que quelqu'un d'autre en mérite moins. Je sais, c'est une guerre, OK? Et ce que tu prends un, l'autre le perd. Mais tu dois lui montrer aussi que tu n'es pas facilement remplaçable. Parce que si tu le menaces, puis il peut te remplacer, il n'y a pas de trouble. Que ta job, il n'y a pas tout le monde qui veut la faire, parce que sinon, il va juste te remplacer. S'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont l'expertise, là, tu as de quoi? Mais on ne fait pas de sentiment. Tu ne peux pas arriver à ton boss et dire « J'ai travaillé fort, je suis une bonne personne. » Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, asseyez-vous dans la chaise du patron, de l'autre bord. Regardez sa volonté à vous payer, puis dites-vous, si vous étiez dans sa chaise, auriez-vous peur de vous perdre? Et si la réponse est non de votre propre aveu, c'est parce que vous comprenez que vous ne pouvez pas monétiser votre plus-value de façon menaçante. Puis si vous pouvez vraiment menacer votre boss, puis vous menacez de partir, il faut absolument être capable de le faire. Et ça, on appelle ça du brinkmanship, c'est-à-dire, si tu ne m'augmentes pas, je m'en vais. Là, ton patron peut dire, ben va-t'en. Mais ça m'est déjà arrivé, Patrick, moi. Je suis parti.
Ben
oui.
T'as pas eu ton augmentation.
Ben mon boss, il me dit à Noël, si t'es pas content, tu peux partir. 6 mois plus tard, j'ai accepté un autre job, tu sais. Puis il me dit, ben pourquoi tu t'en vas? Ben j'ai dit, parce que tu m'as dit, j'étais pas content, va-t'en. Mais il dit, je parlais pour négocier. Ben moi, je t'ai écouté. Donc, c'est un jeu à deux, hein. Puis on se rend compte que les talents ou les gens, c'est de plus en plus un actif important, même au-delà de la bullshit corporative, de dire, hey, si j'ai pas le monde qui travaille, là, j'en fais pas de cash. Donc, il y a un renversement, mais c'est quand même la grosse machine puis l'enveloppe budgétaire qui décide.
On se parle demain. Merci, Pierre-Yves.